10h30 à Paris, 8h30 en temps universel. La libre antenne donc dans 10 minutes, mais je vous laisse entre de bonnes mains pour la dernière édition d'Afrique Matin. Bonjour Xavier Besson.
Bonjour Juan, bonjour à tous. Le Sénégal à la une ce matin. Dakar où le président demande l'ouverture d'une enquête et promet des sanctions si les violences policières sont confirmées. Après la mort de plusieurs personnes ces derniers jours, notamment à Cambaren, qui est une commune de Dakar. Reportage dans un instant. Dans ce journal également, le Mali, où l'Assemblée de transition valide un projet de loi qui permet au président de rester au pouvoir. Et où dans le même temps, les djihadistes du JNIM disent leur intention d'établir un blocus, notamment sur la grande ville de Kay, dans l'ouest du Mali. On parlera aussi d'un nouveau découpage administratif au Burkina Faso. Et de football avec le gardien marocain Yacine Bounou qui fait des étincelles en ce moment à la Coupe du Monde des clubs. Les quarts de finale débutent ce soir. Des violences policières relancent le débat sur l'impunité des forces de l'ordre. Au Sénégal, où la tension est vive depuis le début de la semaine, à Cambérène, un quartier de Dakar, mais aussi à Rosso, dans le nord du pays, après la mort de trois jeunes hommes suite à des interpellations. Un sujet qui a remonté jusqu'au chef de l'État. Reportage tout de suite dans la commune de Cambérène, donc là où deux jeunes hommes ont été retrouvés morts lundi, ce qui a provoqué des émeutes. Reportage de Léa-Lisa Westerhoff.
Sur la route qui traverse la commune de Cambérène, des tas de fils de fer carbonisés et des traces de pneus brûlés. Par endroits, l'odeur du feu pique encore les narines. Si la vie a repris son cours, le sentiment d'injustice lui est intact, comme l'explique Mansour.
On est toujours en colère. Tout ce qu'on veut, c'est qu'ils nous disent comment ces jeunes-là, ils sont morts quand même.
Car depuis que Tiernoba, 26 ans, et Lamine Dieng, 29 ans, ont été retrouvés morts sur la plage lundi, Cambérène ne dort plus. Dans un communiqué, la police assure que les deux se seraient jetés dans la mer pour échapper à un contrôle policier et noyés. Impossible, selon Mansour.
Mais non, non, ça ce n'est pas la vérité. Puisque ces jeunes-là, ils ont né ici. Ils ont grandi ici, au bord de la mer. Comment ils peuvent entrer dans la mer et faire de la noyade? Mais c'est impossible quand même. La plupart des jeunes ici, c'est nager quoi.
Le frère de Lamine, l'une des victimes, confirme que le jeune plombier savait parfaitement nager. À Cambérène, ce sont donc les forces de l'ordre et leurs méthodes qui sont incriminées, trop violentes, estime Sedina.
Même s'ils ont ramassé les jeunes pour les pièces d'identité, ils ont frappé et poussé. Ah, c'est pas normal quoi. Tout l'habitat des Camerounais s'attend à l'enquête justice pour nos frères.
Vérité et justice, une urgence pour les habitants du quartier. Lors des échauffourées des derniers jours, des policiers ont utilisé un jeune homme entravé pour se protéger contre des jets de projectiles. Une scène filmée qui a fait réagir jusqu'au président Bassirou Diomaye Faye lui-même, qui a demandé l'ouverture d'une enquête et promis des sanctions. Pour l'heure, les résultats de l'autopsie des deux victimes de Cambérène n'ont pas encore été rendus publics. Léa-Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Jusqu'à la pacification du pays au Mali, c'est la nouvelle limite de durée posée pour la présidence d'Assimi Goïta. Hier, l'Assemblée de transition à Bamako a adopté à l'unanimité un projet de loi en ce sens. Et autre disposition très importante, le président Assimi Goïta sera désormais autorisé à se présenter aux prochaines élections, ce que la charte de la transition lui interdisait jusque-là. Le Mali et la pacification du pays, cela passerait par la neutralisation des djihadistes, le JNIM notamment, lié à Al-Qaïda, qui a mené des attaques au début de la semaine contre 7 localités de l'ouest malien, dont la grande ville de Kay, et qui annonce la mise en place future d'un blocus à Kay et à Nioro du Sahel pour en punir les habitants qui auraient collaboré avec l'armée. Une mesure qui, si elle était mise en œuvre, pourrait avoir de graves conséquences, nous explique David Bachet.
Le JNIM n'a indiqué aucune date pour le début des blocus à Kay et Nioro, induisant que la mesure serait rapidement effective. Les djihadistes entendent bloquer toutes les routes qui relient ces villes au Sénégal, à la Mauritanie ou à la capitale, Bamako. Si le JNIM parvient à l'appliquer, les conséquences de cette punition collective pourraient être très importantes. Dans les villes concernées, plus de 193 000 habitants à Kay, plus de 3 millions dans la région, mais aussi à Bamako et dans le reste du pays. En jeu, les déplacements des populations, mais aussi leur approvisionnement et plus globalement les échanges commerciaux entre le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. Kaye se trouve sur l'axe reliant le port de Dakar à la capitale malienne, emprunté quotidiennement par des centaines de camions de marchandises. Reste à voir dans quelle mesure le JNIM sera en capacité de le mettre en œuvre et dans quelle mesure l'armée malienne pourra l'en empêcher. Le JNIM impose régulièrement des embargos aux villes où les habitants sont accusés de proximité avec l'armée. Farabougou, Tombouctou, Boni, Diafarabé, beaucoup ont été ou sont toujours soumises à ces restrictions de circulation, notamment dans le nord et dans le centre du pays. Mais c'est la première fois que les djihadistes entendent imposer un embargo sur une ville aussi importante que Kaye.
David Bachet, le Togo et cette déclaration commune d'une quarantaine d'organisations de la société civile, Africtiviste, Togo Debout notamment, ou encore Tournons la Page, qui appelle la CDAO, la communauté ouest-africaine, à sortir, disent-ils, de son positionnement neutre à propos des récentes manifestations contre le pouvoir de Fornia Simbé. Les organisations estiment que la CDAO porte une lourde responsabilité dans la crise qui secoue actuellement le Togo et lui demande de prendre ses responsabilités. Prise de position aussi d'Amnesty International qui appelle les autorités togolaises à mettre fin au recours excessif de la force contre les manifestants. Amnesty assure qu'au moins 7 personnes sont mortes lors de la répression des récents rassemblements à Lomé notamment. Au Niger, c'est la saison des pluies qui a commencé depuis le début de la semaine. Des dégâts importants sont déjà constatés. D'après la direction de la protection civile, 4 personnes sont mortes dans des effondrements et un nombre important d'infrastructures, dont des habitations, sont touchées. D'autant plus que d'autres fortes pluies sont attendus dans les prochains jours. Direction maintenant le Burkina Faso. 4 nouvelles régions et 2 nouvelles provinces. Redécoupage administratif au pays des hommes intègres. Une réforme qui doit permettre, d'après les militaires au pouvoir à Ouagadougou, de mieux répondre aux impératifs de sécurité. Précision et explication avec Frédéric Gara.
À travers ce nouveau découpage, l'État burkinabé entend renforcer sa présence et assurer la défense du territoire, surtout dans les zones frontalières, explique Émile Zerbo. Le ministre de l'administration territoriale précise que ces régions étaient immenses et que l'État n'avait pas un vrai contrôle sur ces territoires. Ce sont donc les régions de l'Est, du Sahel et de la boucle du Moun, particulièrement visées par des attaques terroristes, qui ont été subdivisées pour donner naissance à 4 nouvelles régions. Le Soum, la Sirba, la Tapoa et le Sourou, avec pour chef-lieu respectif Djibo, Bogandé, Diapaga et Tougan. 2 nouvelles circonscriptions, le Diamongou et le Karo-Peli, portent à 47 le nombre de provinces. À noter dans cette réforme que toutes les régions et provinces du pays seront désormais désignées en langue nationale. Le ministre Émile Zerbo soutient que ce découpage est le signe d'un nouveau départ dans la construction d'un Burkina Faso qu'il espère plus solidaire et plus équilibré dans ses territoires.
Dans l'actualité ce matin également, le Gabon et la famille Bongo qui communiquent après avoir été entendus par des juges français au début de la semaine. L'ancien président gabonais Ali Bongo, sa femme Sylvia, leur fils Noureddine, qui ont porté plainte en France contre les militaires qui ont pris le pouvoir à Libreville en 2023. Ils disent avoir joint à leur plainte une vidéo montrant les sévices qu'ils disent avoir subis, ainsi que les pressions des militaires sur la justice gabonaise pour les faire condamner. Enfin, avant de retrouver Juan Gomez, dans une minute, les sports, avec le début ce soir des quarts de finale du Mondial des clubs de football. Certes, il n'y a plus d'équipe africaine engagée à ce stade de la compétition, mais il reste encore des représentants du continent chez les joueurs, et pas des moindres, notamment ce soir dans le duel entre les Brésiliens de Fluminense et le club saoudien d'Al Hilal. Il y a le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, et surtout, il y a un gardien de but marocain qu'on ne présente plus, Cédric de Oliveira.
Savinho, Bono! Bono!
Le 8e de finale contre Manchester City a été prolifique, 7 buts marqués par les deux équipes, mais on a vu quasiment que Bono, ou plutôt Yacine Bounou, auteur de 10 arrêts face aux Anglais. À lui tout seul, le gardien marocain a été déterminant dans la qualification des siens, tout comme depuis le début du tournoi. Selon les statistiques de la FIFA, l'ancien portier sévillan en est même à 23 parades en 4 rencontres, ce qui en fait pour l'instant le meilleur gardien de ce mondial des clubs. Après avoir déjà arrêté un penalty pour préserver le match nul contre le Real Madrid lors du premier match d'Al Hilal Bilal. Il a confirmé ensuite que ses qualités n'avaient pas disparu en rejoignant le championnat saoudien il y a 2 ans. Un choix qui avait surpris à l'époque après 3 saisons irréprochables au FC Séville. Bounou s'était hissé dans le cercle officieux des meilleurs gardiens de la planète lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar. Avec le Maroc, il avait atteint les demi-finales en se montrant décisif à plusieurs reprises. Aujourd'hui, à 34 ans, il est toujours aussi ambitieux et la sélection marocaine pourrait bien en profiter, elle qui ne vise rien d'autre que la victoire finale lors de la prochaine CAN qui aura lieu à domicile dans quelques mois.
Al Hilal Fluminense, c'est ce soir à 21h, heure de Paris, le premier quart de finale de ce Mondial des clubs. Pour l'instant, il est 10h40 et vous êtes avec Juan Gomez.
Merci Xavier Besson, très bonne journée. Prochain grand rendez-vous avec la